notre santé mentale, c'est tout ce qu'on a pour nous. Et faut tout faire pour la préserver. Honnêtement, quand on n'a plus une santé mentale ou une santé physique, tout est beaucoup plus compliqué dans la vie. Mmh. Donc quand on a la chance d'avoir une bonne santé mentale, une bonne santé physique, mmh. on doit tout faire en fait pour la préserver.
Bienvenue au podcast Sebeni Ni Tama. Une mission inspirante qui explore le parcours de vie, les histoires de femmes leaders, tout en encourageant la connaissance de soi, la réappropriation de nos propres histoires. Il s'agit de conversations intimes et engagées, où nous parlons bien-être, santé mentale, vie professionnelle, entrepreneuriat, littérature,
Alors, hello Sierra.
Salut.
Alors, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors, donc toi, tu es psychologue du travail depuis déjà plusieurs années.
Ouais.
Et puis, en plus de soi, tu es également coach carrière, spécialisée en burn-out.
Ouais.
Tu as créé ton cabinet il y a peu de temps. On va largement parler de tout ça. Ton cabinet, tu le décris comme étant le cabinet du renouveau, qui accompagne les trajectoires professionnelles. Un cabinet qui permet de ne pas choisir entre travail et bien-être et travail et aliment. Et j'adore cette description.
Eh bien, tant mieux.
Et en plus de ça, tu as une vie familiale bien chargée parce que tu es mariée et tu as 3 enfants de 4 ans et en dessous de 4 ans.
C'est
bien
ça. Hein. Exactement.
Alors, on va explorer ton parcours personnel, familial, mais aussi bien sûr ton parcours professionnel et parler du cabinet Bliss. On va toucher à toutes ces problématiques. Toutes ces problématiques qui ont trait à nos vies professionnelles, comme la reconversion au travail ou encore l'épuisement professionnel, comment trouver ou retrouver sa voie. Mais en fait, selon moi, toutes ces thématiques, elles ont toute leur importance parce qu'elles sont inhérentes à notre vie personnelle et aussi à notre relation avec nous-mêmes. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de tout ça... Je voulais savoir comment toi ça va aujourd'hui, en ce moment. En plus, je sais que c'est une période de rentrée pour toi.
Ouais, pour moi et pour les enfants. Bah écoute, ça va plutôt bien. Je rentre de vacances, donc on a pu profiter des mini, comme je les appelle. on a fait des vacances un peu farnientes cette année, en mode en slow life. On n'a rien fait, on n'a rien prévu en fait. On est parti, mais on n'a rien prévu à part visiter un zoo, une ferme pédagogique, enfin voilà. Et du coup, c'était de très bonnes vacances. Et puis là, ça fait quelques jours qu'on est rentré et on range, on trie, on met de l'ordre, on prépare la rentrée, à la fois pour la maison et puis chacun dans notre tête d'un point de vue pro aussi. Mm-hmm. Parce que trier permet de faire le vide et d'y voir plus clair. Mm-hmm. Donc, voilà.
Écoute, avant de commencer, j'aime toujours parler un peu de la période de l'enfance et de l'adolescence.
Ouais.
Parce que pour moi, c'est une période qui est très riche et qui nous révèle beaucoup de choses sur nous-mêmes. Mmh. Est-ce qu'il y a des événements qui t'ont marqué, des choses qui t'ont marqué lorsque tu étais plus jeune, qui sont importantes ?
Des événements qui m'ont marqué. Oui, alors il y a eu des départs dans ma famille, ma grand-mère paternelle. Il y a eu plusieurs décès qui m'ont marqué.
Mmh.
Et après, à un âge un peu plus âgée, mais avec le recul, je trouve que j'étais encore bien jeune. C'était le départ de ma mère, bien sûr.
Quel âge ?
Je venais d'avoir 21 ans.
Ah ouais, ouais, c'est jeune.
C'est jeune.
C'est très jeune.
C'est vrai que certains à 21 ans font déjà pas mal de choses de leur vie. Moi, j'étais encore en études. On vivait toutes les deux, donc extrêmement proches. Et ça a été un départ assez rapide. Ça m'a vraiment marqué. Du coup, ça, il y a eu un gros changement. On parle de changement de personnalité. La personnalité, on est censé entre guillemets l'avoir sans qu'elle change. Mais il y a des événements de vie qui viennent vraiment bousculer les choses. Et là, très clairement, ça a tout remis à plat. Enfin, ça a tout remis en question. Et je suis pas aujourd'hui, je suis pas du tout celle que j'étais avant cet événement-là. Donc,
quel a été le changement pour toi, enfin, de personnalité, je veux dire, bien sûr.
Plus plus affirmée après coup, plus forte du coup, plus sûre de mes convictions que je ne l'étais avant, et plus bagarreuse entre guillemets par rapport à la vie, pas tant avec les gens ou autres, mais pour le coup je pense que l'ambition est venue après. Et je me suis dit que de toute façon j'avais pas d'autre choix que de faire ce que j'avais à faire et de réussir, que j'étais sur terre pour une chose, que ma mère m'avait élevée pour faire des choses, on savait pas quoi à l'époque, mais en tout cas voilà, elle m'avait élevée pour faire des choses, et que ce que j'avais reçu comme éducation, ce que j'avais comme capacité, comme compétence, enfin, fallait que ça serve aux gens en fait, fallait que ça serve au monde et que ce soit pas juste quelque chose que je mettais sous le coude parce que j'avais peur de je ne sais même pas quoi. Donc, voilà, cette volonté en tout cas d'avancer et d'y aller coûte que coûte, ça c'est venu après, parce que avant j'avais le choix puisqu'elle était là, et là j'avais plus le choix parce que bah il fallait vivre tout simplement, travailler pour ça, en même temps finir mes études. Donc voilà, partant de là, ça a clairement tout changé, et ça m'a donné une force que j'imaginais pas avoir en moi à l'époque.
Waouh, c'est magnifique ce que tu dis, parce que ça aurait pu aussi facilement être tout le contraire. Enfin, au final, toi, ça t'a renforcé, je sais pas si on appelle ça, quelque part. Ça t'a renforcé parce que tu voulais lui faire honneur en quelque sorte.
Exactement.
Mais au final, c'est voilà, c'est une période qui est assez vulnérable. En plus, enfin, vous vivez ensemble et il y a aussi cette sécurité dans tous les côtés, émotionnel, financière, enfin tout ça. Donc au final, ça aurait pu facilement tomber de l'autre côté.
Alors comment ça a été possible? J'ai été très entourée. Très clairement, ses cousines les plus proches ont pris le relais. Et donc ces deux sont devenues mes mamans, clairement. Et j'ai quand même eu cette période pendant... 6 mois et 9 mois qui ont été extrêmement compliqués. Donc je me suis fait accompagner parce que j'étais en psycho, et je savais que ça n'allait pas, parce qu'on sait quand on va pas bien, et après il faut juste avoir la force de l'admettre et de se dire qu'il y a des personnes qui sont compétentes et compétentes pour nous aider pour aller mieux. Donc je me suis accompagnée. À l'époque j'avais pas de budget, donc je suis allée voir un psychiatre parce qu'en France c'est pris en charge par la sécurité sociale. Et puis après ça a été des rencontres d'amis à la fac. Une qui m'a permis de me réorienter vers la psycho du travail parce qu'elle y était, ou alors que moi j'étais pas encore dans cette spécialité. Et ensuite, une fois que j'ai démarré ce cursus-là, deux autres amis que j'ai rencontrés, etc. Donc j'ai réussi, sans le chercher, sans le vouloir, à m'entourer de personnes qui avaient suffisamment de bienveillance et de force pour finalement me dire « mais si, t'es capable, et tu sais le faire, et tu peux le faire, et on est là, t'es pas seule ». Et je pense que ces amis-là, couplés à mes tantes, ont fait que ça s'est bien passé, et ont fait que, évidemment, il y a eu des moments extrêmement difficiles, mais dans l'ensemble, ça m'a permis d'avancer jusqu'au stade où après j'ai pu commencer à travailler et continuer à grandir en fait. Et puis après, pour clôturer le tout, je dirais la rencontre avec mon mari, qui est venu renforcer en fait toutes ces bases-là, et qui est venu, je dirais, renforcer peut-être ces insécurités que j'avais. Et finalement, voilà, l'ensemble de ces personnes ont fait que l'insécurité n'a pas pris le dessus sur le reste. Mais sans ça, et sans cette conviction et cette volonté de faire quelque chose de ma vie, je pense que oui, j'aurais pas la même force aujourd'hui, très clairement. Mais voilà, j'ai toujours eu un objectif en tête. J'ai voulu abandonner des milliards et des milliards et des milliards de fois, mais encore aujourd'hui. Et à chaque fois, j'ai ce truc qui me dit non, tu peux pas. Enfin, faut y aller.
Parce que tu penses à elle et tu penses, ouais. Voilà, il y a cette idée que tu dois lui rendre honneur à travers ta vie.
Ouais, c'est ça. Et puis je me dis qu'on est sur Terre pour quelque chose. Mmh. On est sur Terre pour quelque chose et un jour un coach m'a dit mais qui êtes-vous pour décider que les autres ne doivent pas bénéficier de ce que vous savez faire. Mmh. Et là je me suis dit, ah oui, vu sous cet angle, ok, d'accord, on y va. Donc et à chaque fois, oui, que j'ai ce doute-là, je me dis, ok, je vais laisser les gens décider s'ils ont besoin ou pas. C'est pas à moi de décider à l'avance de ce qu'ils ont besoin. Donc, tu ravales ta peur, tu t'en sers pour savoir ce que tu dois faire, et puis tu avances.
Mmh. Ouais, magnifique.
Même quand on se sent complètement inutile, on est forcément utile à quelqu'un. Mmh. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose à avoir en tête. C'est pas de l'égotisme. Mmh. C'est pas un surplus de confiance en soi, c'est juste qu'à un moment donné, oui, on est forcément utile à quelqu'un. Mmh. Donc, reste à savoir en faisant quoi, auprès de qui, dans quel contexte, dans quelles circonstances. Donc, tout ça, ça se définit. Mais on est tous utiles à quelqu'un pour faire quelque chose, pour accomplir quelque chose, quelle que soit cette chose-là.
Mmh. Complètement. Mmh. Bah, t'as choisi la psycho. Comment ça s'est passé? Comment t'as vécu ces études? Est-ce que c'était à la hauteur de ce que tu imaginais?
Oui. Non, si, c'était à la hauteur de ce que j'imaginais. J'ai adoré. Honnêtement, j'ai adoré. Et à l'issue de la troisième année, alors on choisit des options, etc. Donc moi, j'avais choisi de travailler avec les enfants. Entre-temps, ma maman est décédée. Et j'ai pas du tout eu cette... j'ai plus cette force d'accompagner les enfants. Certainement cette insécurité. Puis j'ai rencontré donc cette amie qui m'a parlé de la psychologie du travail. Et là du coup je me suis dit mais en fait effectivement il y a beaucoup de gens aussi qui souffrent au travail. Et pour moi c'était un non-sens de souffrir au travail. Puisque j'avais cette chance en fait d'avoir trouvé mon métier assez facilement. Et l'idée que j'en avais à l'époque c'était que j'allais m'y épanouir. Donc je trouvais triste que des gens soit malheureux au point de, pour certains, mettre fin à leur vie. Alors, c'était en plein en France pendant les problématiques à France Télécom, où il y a eu beaucoup de suicides, etc. Donc, je suis de cette génération-là de psychologues du travail. Donc, on a vécu ça vraiment de plein fouet, entre guillemets. Et clairement, moi, ça a fait naître entre guillemets, cette vocation. Alors, je savais que je voulais être psychologue, mais je savais pas forcément que je vais travailler dans le monde du travail, dans le milieu du travail auprès d'adultes. Et c'est cette rencontre, ce qu'elle m'en a dit plus derrière ces événements-là, qui m'ont dit « Ok, en fait, je peux être utile tout de suite aux gens. Et surtout, je peux avoir des résultats. » Je suis quelqu'un qui a besoin de résultats, qui aime bien voir que mes actions ont des conséquences positives. Et c'est vrai qu'avec les enfants, j'avais du mal à m'imaginer à l'époque, puisque j'avais pas fait de stage encore, comment... voilà, c'était pas forcément hyper palpable pour moi. Là où, pour le monde du travail, j'imaginais l'impact assez facilement, assez rapidement. Et du coup, je me suis dit, ok, tu peux impacter positivement des gens. Donc, c'est peut-être ça que tu dois faire. Et je me suis lancée là-dedans.
Qu'est-ce que tu as appris durant toutes ces expériences ? Je pense que tu as appris beaucoup de choses, mais qu'est-ce que tu retiens en tout cas?
Ce que j'en retiens, c'est que quand on a le choix, il faut faire ce qu'on a envie de faire. Je précise quand on a le choix. Il y a des moments dans la vie où on doit travailler, on n'a pas le choix. Quand je faisais mes études, je cumulais trois jobs en même temps. Je m'occupais d'enfants de 5h à 9h, puis j'allais à la fac. Et je tapais des cours pour des personnes porteuses de handicap en même temps que mes cours. Voilà. Le soir, je faisais pareil. Et le week-end, je travaillais dans un cinéma. Donc, j'ai aussi fait des ménages, etc. Donc, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Parce qu'en fait, il faut vivre. Et quand on sait ce qu'on veut dans la vie, on met les bouchées doubles et on fait ce qu'il faut pour y arriver. Après, une fois qu'on peut avoir le choix, il faut faire ce qu'on a vraiment envie de faire dans l'environnement qui nous convient. On peut avoir le plus beau métier du monde, si on le fait dans un environnement qui ne nous convient pas, ça deviendra pour nous le pire métier du monde, parce que l'environnement ne nous convient pas. Et ça, c'est ce que j'ai, moi, personnellement appris, ce que j'ai personnellement vécu. J'ai adoré faire du recrutement, les environnements n'ont pas toujours été adaptés à ma personnalité, à ma manière de fonctionner. Et ça a été, du coup, pour moi, les moments de ma vie où mon métier a été le plus difficile et où j'ai cru que non seulement j'étais pas bonne dans ce que je faisais, j'étais pas compétente, mais en plus, je n'aimais plus ce que je faisais. Mmh. Alors qu'en changeant d'environnement, j'ai repris goût au métier et je suis redevenue compétente, entre guillemets. Je dis redevenue, j'avais pas perdu la compétence. Mais quand tu fais les choses avec moins d'entrain, quand tu les fais sans vibrer, bah, tu donnes pas tout ce que t'as. Donc forcément, tu n'as pas du tout les mêmes résultats. Et ça vient miner le moral, ça vient miner tout, en fait. Donc tu en viens à complètement te dévaloriser, à te dire que de toute façon, t'es pas efficace, que tu sais pas trop ce que tu fais mal ton job, et que finalement, ton boss a bien raison de pas te faire confiance. Alors que t'es peut-être juste pas dans le bon environnement. C'est peut-être le bon métier, mais c'est peut-être pas juste le bon environnement. Et tout ça, c'est quelque chose d'important. Et j'ai beaucoup de personnes en ce moment qui me contactent et qui me disent « Oui, je veux changer de métier, etc. » Et je pense que la pandémie a accéléré ces questionnements-là. Après, la question à se poser, c'est « Est-ce que c'est vraiment le métier ?» Ou « Est-ce que c'est pas juste l'environnement de travail qui ne convient pas, qui ne correspond pas ?» Et ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Et pour avoir les réponses, je pense qu'il faut faire une petite introspection. Savoir qui on est, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, quelles sont les valeurs qu'on défend, quelles sont les choses contre lesquelles on se battrait corps et âme, quelles sont celles qui nous laissent complètement insensibles parce que c'est pas forcément notre cause. Et savoir de ce dont on a besoin. On n'a pas tous les mêmes besoins en entreprise. Certains ont besoin d'un management rapproché, d'autres ont besoin d'une liberté totale. Et il faut savoir de quoi on a besoin. Parce que si on a besoin d'une liberté totale et qu'on est dans une entreprise avec un management qui est hyper serré et un micromanagement, ça va fonctionner un temps, mais sur la durée, ça ne va pas être possible. Et à contrario, si on a besoin d'être épaulé, d'être accompagné pas à pas, et que le manager qu'on a ou l'entreprise qu'on a est plutôt... type, bah, tu fais ce que tu as à faire et puis on se voit une fois par mois, on ne sera pas non plus épanoui.
Complètement. Tu as fondé très récemment ton cabinet, le cabinet Bliss, qui a une très belle mission d'ailleurs et un très beau site internet. On va tout laisser en barre de description.
Merci.
Et comment est-ce que tu en es arrivée là, en fait ?
Tout a démarré. Alors, j'avais l'idée en tête en master, effectivement, de à terme créer un cabinet qui permettre aux gens d'aller mieux au travail. Et puis, quand je suis arrivée dans la région, j'ai intégré une association. Et du coup, c'est une association qui aide au retour à l'emploi en proposant des ateliers, des événements. Et non seulement on n'est pas seul, et puis voilà, on participe à des ateliers, donc on bouge, on se bouge, on est entouré, on se fait du réseau, etc. Donc c'est hyper important. Dans la région frontalière à Genève, parce que bah, y a beaucoup, entre guillemets, d'expatriés, même s'ils ne le sont pas forcément, mais qui se retrouvent seuls, en fait, quand ils arrivent. On ne connaît personne, on ne sait pas du tout comment ça fonctionne à Genève d'un point de vue emploi, etc. Donc on peut vite être dépassé et ne pas savoir comment faire, et vite se retrouver à être en dépression, etc. Donc cette association-là, m'a beaucoup aidée. Et en fait, c'est une association par ses membres et pour ses membres. C'est-à-dire que ce sont les membres qui animent les ateliers. Et ça part de ce postulat qu'effectivement, on a tous quelque chose à offrir. Donc, ce dans quoi on est doué ou ce qu'on sait faire, on peut l'offrir aux autres. Et j'ai commencé à animer des ateliers justement sur CV, lettre de motivation. Et puis, j'ai monté une session. Alors, l'atelier existait déjà et puis était endormi sur les simulations d'entretien. Donc, j'ai fait ça à la fin de ma deuxième grossesse. Et j'ai eu de très bons retours. Les personnes qui participaient étaient vraiment contentes. Et il y en a deux, trois qui m'ont dit, écoute, c'est parce que je me suis préparée avec toi que j'ai eu le job. Donc, merci. Et un jour, mon mari me dit en rigolant, mais tu sais qu'il y a des gens qui se font payer pour ce que tu fais. Je suis genre, tu parles. Et puis bon, l'idée passe. Et ça revient quelques mois après, je me dis, mais en fait, c'est vrai que je pourrais peut-être faire ça. Aider les gens à se préparer, à faire des simulations en fait, d'entretien, tout simplement. Au début, c'était que ça, l'idée, faire des simulations d'entretien. pour des particuliers, pour les aider à avoir le job qu'ils veulent et être prêt en 2 ou 3 séances pour tout cartonner, en fait. Et ça, c'est vraiment mon truc, clairement, parce que j'ai, ce que je disais tout à l'heure, j'ai toujours adoré faire des entretiens et donner aux personnes les clés, les bonnes questions pour se sentir prête, avoir tout en tête. Le cerveau fonctionne plutôt bien et plus on se prépare, plus on visualise et plus il est prêt le jour J à délivrer ce qu'il a à délivrer, et on se sent en confiance et ça se passe hyper bien. Donc après, que ça le fasse ou pas, parce que l'entreprise en face a d'autres besoins, hein, c'est autre chose, mais encore faut-il se sentir prêt et prête à parler de ce qu'on a fait, de ce qu'on veut faire, etc. Donc c'est parti de là, j'ai commencé à réfléchir, j'en ai parlé autour de moi, et puis petit à petit, les choses se sont dessinées autrement. Et puis, j'osais pas trop, attaquer le versant psycho. Parce que ce syndrome de l'imposteur, hein, où je me suis dit, bon, j'ai jamais fait de psycho, en vrai, c'était toujours via le recrutement, etc. Et j'avais toujours ce truc des risques psychosociaux, du burn-out, qui clairement était là, qui me plaisait, mais où j'osais pas y aller. Et puis ma dernière expérience pro, je me suis dit, non, en fait, faut que je le fasse. Parce que les gens en ont besoin. Les gens en ont besoin. Et là, c'est devenu un besoin impérieux. Là où c'était une idée, c'est devenu un besoin impérieux. Je me suis dit, ok, maintenant, comment je peux faire pour y aller? C'est pas le tout de vouloir le faire, c'est comment on fait pour y aller, pour le faire et le faire bien. On est face à des personnes qui sont en détresse, qu'on n'est pas là pour s'amuser, on n'est pas là pour faire des tests. Et du coup, je me suis dit que j'allais me préparer. Donc, je me suis formée. Et je me forme encore.
Et moi, ce que je trouve vraiment intéressant avec le travail que tu fais, c'est justement que tu as les deux angles de spécialiste, donc en tant que psychologue, mais aussi en tant que coach, donc coaching carrière et psychologue du travail, ça se complémente tellement bien ensemble. Comment est-ce que tu allies les deux d'une? Et pourquoi est-ce que pour toi c'est important d'allier ces deux casquettes, on va dire?
Alors, comment et pourquoi? Pourquoi? Alors, la partie carrière, c'est mon expérience, clairement, de recruteuse et responsable au recrutement, responsable RH. Donc ça, c'est mes compétences, c'est mon socle de compétences, c'est ce que je sais faire. Je sais que je le fais bien, parce qu'on me l'a dit, parce que j'ai eu des résultats et parce que, encore une fois, les personnes que j'ai recrutées dans certaines entreprises, ils sont encore, et ça fait plus de 5 ans, etc. Donc... et sont successful dans leur job. Donc ça, c'est la partie compétences. C'est ce sur quoi je me suis appuyée pour développer l'offre bilan de compétences et l'offre vraiment coaching carrière, donc emploi, en gros. Tout ce qui est la simulation d'entretien, CV, lettre de motivation, etc. Et après, psycho, c'est mes tripes. la santé au travail... les risques psychosociaux, le bien-être des gens, c'est mes tripes et c'est ma formation. Donc l'idée d'allier les deux n'est pas venue comme ça, ça a vraiment été un cheminement. Et encore une fois, l'idée a commencé à germer dans mon cerveau. Mon mari a fait l'inception, je dirais, en 2019. L'idée finale du cabinet tel qu'il est aujourd'hui, c'était fin d'année dernière, donc 2020. Donc il a fallu bien quasiment 2 ans avant d'arriver à cette idée telle que ça existe aujourd'hui. Donc ça, c'est le pourquoi. Parce que d'un côté, j'ai besoin de répondre à ce que mes tripes me demandent de faire. Cette espèce de mission de vie, d'appel, je sais pas, les gens appellent ça un peu comme ils veulent. Mais d'un autre côté, j'ai aussi besoin de m'appuyer, d'avoir cette zone de confort et de choses que j'aime faire. Et là, ça s'appuie clairement sur mon expérience. Donc les deux viennent se compléter. Et les deux se complètent. Comment elles se complètent? Parce que quand on ne sait plus trop où on en est dans sa carrière, on a tendance à vouloir changer. Ou en tout cas, on se pose des questions. Donc ça, c'est vraiment l'aspect, le versant carrière. Et... pas tout le temps, mais souvent il peut y avoir derrière des problématiques de santé au travail. Burnout, brownout, burnout, il y a plein de mots différents. Quoi qu'il en soit, on n'est plus en phase avec soi-même, avec ses valeurs et avec son travail. y a un écart qui se fait, il y a une dissonance, il y a quelque chose qui fait que on ne le sent plus. Ou il y a quelque chose qui fait que ça ne va plus du tout. On rentre à la maison, on est abattu. On part le matin, on a la boule au ventre. On ne dort plus la nuit. On commence à avoir de l'eczéma alors qu'on n'en a jamais fait de notre vie. On commence à avoir des migraines non-stop alors qu'on n'en a jamais eu de notre vie. On commence à être à fleur de peau, à s'énerver tout le temps à la maison, alors qu'on ne s'énerve plus au travail, parce qu'on n'ose plus dire les choses. Et en fait, il va y avoir tout un tas de symptômes très différents, très divergents. Et à un moment donné, c'est l'entourage qui va donner l'alerte. Il va dire, oh, c'est bon, tu me saoules avec ton travail, tu es toujours en train de te plaindre, mais il ne se passe rien. Change de job, parce que là, franchement, j'en peux plus t'entendre aller. Ou d'autres qui disent, mais attends, tu te rends plus compte, tu dors plus à cause du travail, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Ou, ah non, mais attends, enfin, là, si t'es dans cet état, c'est à cause du job, enfin, de ton travail, très clairement. Parce que tout le reste dans ta vie, ça va bien. Il n'y a que cet aspect-là qui ne va pas. Donc l'entourage va alerter. Les personnes vont se dire, ok, peut-être que je change de job ou d'entreprise. Et puis, quand on creuse un peu, bah, un sous-jacent, voilà, il y a des problématiques de santé au travail. Et c'est là, en fait, que les deux s'allient plutôt bien. Parce qu'on peut venir pour faire un bilan de compétences et changer de métier, alors qu'en fait, on est en burn-out, sans le savoir. On peut savoir qu'on est en burn-out et se dire, oh, plus jamais de ma vie, je fais ce job. De toute façon, c'est à cause de ce travail que je suis tombée malade, etc., etc. Et en fait, on va pouvoir explorer les deux. On peut tout à fait faire un burn-out et reprendre son activité dans la même entreprise, mais dans d'autres conditions, peut-être même dans une autre équipe. On peut faire un burn-out et changer de métier parce qu'on est peut-être allé trop loin, ou peut-être qu'on a fait un burn-out parce que le métier ne nous convenait pas initialement, l'entreprise. Donc les deux se complètent, en fait, à ce niveau-là. En tout cas, c'est moi la vision que j'en ai aujourd'hui. Et je peux à la fois accompagner des personnes qui sont en burn-out et pour savoir s'il y a effectivement quelque chose à changer en termes de métier, d'environnement. Et puis, ben, quand ça va mieux, on peut toujours retravailler le CV, un profil LinkedIn, se préparer pour la suite. Et je peux aussi accompagner des personnes qui aujourd'hui se disent « Ah non, moi je veux changer de carrière, etc. etc. » Et puis les aider peut-être sur quelques séances à prendre conscience qu'il y a aussi autre chose au-delà du changement de métier qui touche à la santé au travail et que ça, ils peuvent agir dessus. Et après, il sera toujours temps de voir si, en allant mieux, il y a toujours cette envie de changer de travail ou pas. Ou si c'était effectivement juste des ajustements à faire, peut-être au travail, dans sa vie, dans l'équilibre, en tout cas, l'importance qu'on donne au travail. Et cet ajustement-là, ces ajustements-là, quand on les fait assez tôt, on peut non seulement éviter le burn-out, et des fois, ben, on se rend compte qu'en fait, on est très heureux dans notre métier, et qu'on est bon dans ce qu'on fait, et qu'on peut donc continuer à le faire, qu'il n'y a pas forcément besoin de repartir à zéro dans sa carrière, etc. Donc c'est là où les deux choses peuvent vraiment se compléter.
Non, je vois, ça fait complètement sens. Il y a toute une partie qui vient avant, je peux dire une partie introspective qui est quand même importante, et qu'on peut, enfin, on peut pas passer outre dans tous les cas, surtout si on allait, on va si mal qu'on a fait quand même un burn-out qui est quelque chose de grave, de non négligeable. Donc toute cette partie pour mieux se relever, on va dire, et l'autre partie pour une fois que ça va mieux, qu'est-ce qui se passe, pourquoi en fait, qu'est-ce que moi je peux faire pour non seulement que ça se repasse plus, mais que ça aille beaucoup mieux en fait. Mais c'est assez intéressant parce que moi quand je pense à la santé au travail, je pense à un autre aspect aussi, je pense aux harcèlements. Que ce soit un harcèlement sexiste, ou bien même des remarques racistes. Comment est-ce qu'on se confronte à ce genre de situation?
C'est une très bonne question. Déjà, le harcèlement sexuel, c'est extrêmement difficile à vivre pour une femme. Et j'en ajoute une couche quand on est une femme noire. Il y a tout un tas de préjugés qui sont attachés à la femme noire, si on prend ce versant sexuel, justement. Et en fait, il faut lutter avec... Enfin, il faut faire face aux deux. Donc, il y a quelque chose de très difficile à vivre. Et pour moi, pour en sortir, il faut de l'aide. C'est soit on se rencontre très rapidement, on arrive à en parler et ça s'arrête. Mmh. Et en tout cas, ma vision des choses, sachant que le harcèlement, c'est pas mon domaine, mais d'expérience, je dirais qu'il faut s'interroger avec ce qu'on est capable et en mesure de supporter ou pas. Petit à petit, face à une personne qui va vous détruire. Mmh. En tout cas, ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas rester silencieux. Mmh. J'écoutais un podcast, alors c'est marrant que tu en parles, j'écoutais un podcast cette semaine de L'Apprenti, ça s'appelle, sur justement l'affaire du CEO de Appen, qui concurrençait Mythic, etc. Et qui a fini par tomber pour ça, mais parce que les personnes ont parlé. Parce que les personnes ont parlé, donc si on ne dit rien, ça se poursuit. Donc voilà, faut trouver la force d'en parler, et pour ça, s'il faut s'entourer de psychologues, de juristes, d'avocats, peu importe, faut le faire. Mais il faut se préserver. Notre santé mentale, c'est tout ce qu'on a pour nous. Et faut tout faire pour la préserver, honnêtement. Quand on n'a plus une santé mentale ou une santé physique, tout est beaucoup plus compliqué dans la vie. Donc quand on a la chance d'avoir une bonne santé mentale, une bonne santé physique, on doit tout faire en fait pour la préserver.
Ouais. C'est vrai que ce genre de situation, c'est vraiment délicat. Mais dans ton travail, on va aller vers la partie aliment au travail dont tu parles pas mal. Qu'est-ce que ça signifie pour toi déjà, être aligné au travail ?
Être aligné au travail ?
Ouais, c'est une belle phrase hein, que j'aime beaucoup, mais concrètement...
Concrètement, c'est quand ce que l'on te demande de faire au travail ne trahit pas tes valeurs. C'est quand ta manière de travailler, ta manière naturelle de travailler est alignée avec ce que te demande l'entreprise, le rythme qu'on t'impose. C'est tout ça, et en fait c'est quand le fait de travailler ne te coûte pas en termes de valeur, en termes de rythme biologique, en termes d'action. C'est ce que tu fais, c'est voilà, ça ne te coûte pas la santé, ça, t'es pas le soir à te torturer les méninges parce qu'on t'a demandé de faire telle chose et que t'es pas du tout en accord avec ça. T'es pas torturé parce que t'aimes bien travailler de manière hyper précise, que t'es plutôt dans la team perfection et en fait, ton entreprise, bah là, il n'y a pas trop le temps, il faut faire vite. Même si c'est mal fait, même si c'est pas bon, il faut faire vite. Et où du coup, tu vas finir par te sentir complètement écartelé entre le fait de faire quelque chose de parfait à ton sens, mais dans un délai en partie qui est hyper court, donc ça va pas tenir, donc à un moment donné, ça craque. Et en fait, c'est cet ensemble-là, être aligné au travail. C'est à la fois, tu as des compétences que tu mets à profit, qui sont utiles et qui sont reconnues. Ton travail est reconnu. Les valeurs que tu as en toi, ce qu'on te demande de faire, ne les trahissent pas. Et le rythme que tu as et ton niveau de perfectionnement, enfin voilà, ce que tu veux donner au travail, la manière dont tu travailles correspond à ce qu'on attend de toi aussi.
Quelles sont les questions qu'on devrait vraiment se poser si ça fait un moment qu'on sent que ben, en fait ça va pas, mais on reste parce qu'il y a une sorte de confort inconfortable qui s'installe en fait.
C'est de quoi vous avez peur en fait ? De quoi est-ce qu'on a peur quand on n'y va pas ? Qu'est-ce qu'on a peur de perdre ? Quand on n'a pas peur de perdre quelque chose, on fait ce qu'on a à faire. En général, ouais, on y va, on se pose pas trop de questions. Quand on ne le fait pas, faut se demander de quoi on a peur. Et une fois qu'on a identifié de quoi on a peur, est-ce que c'est une peur de l'échec ? Est-ce que c'est la peur de ne pas retrouver un travail aussi bien payé, ou peut-être ce confort financier dont on a besoin parce que bah, on a une famille à faire vivre, il y a aussi la réalité. Est-ce que c'est peut-être une autre peur ? Enfin, on a chacun nos peurs, on traîne tous nos casseroles. Et l'idée, c'est de savoir ce qui nous retient de changer et pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas. Et cette peur, elle n'est pas facile à identifier, mais une fois qu'on l'a identifiée, la question, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place pour rassurer mon cerveau par rapport à cette peur, lui dire mais t'inquiète, ok, c'est un gros enjeu, mais on peut le faire. On peut le faire parce que je me suis formée, on peut le faire parce que je me suis renseignée sur tel et tel truc, on peut le faire parce que je sais qu'il y a, un poste ici, un poste ici, un poste ici, parce que mon réseau me l'a dit. Mmh. Voilà, c'est essayer d'identifier sa peur, ce qui nous retient de changer, et ensuite de voir quelles sont les choses que l'on peut concrètement mettre en place, les actions à mettre en place pour dépasser nos craintes et aller là où on veut aller.
Mmh, ouais, ça fait sens.
On ouais. peut pas changer de métier ou de vie ou quoi que ce soit si on n'a pas d'objectif. Mmh. On a besoin d'objectifs dans la vie, et tant qu'on n'a pas ces objectifs-là dans la vie, on ne peut pas avancer. Donc ça peut être la deuxième question. Au-delà de qu'est-ce qui te retient de bouger, c'est qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. C'est quoi ton objectif en fait? Est-ce que ton objectif, je sais pas moi, c'est de partir 6 mois par an aux Maldives? Ben, il va falloir vraiment se bouger. Mm-hmm. Est-ce que ton objectif, c'est travailler du mardi au jeudi et le reste du temps, tu fais autre chose? Mm-hmm. Est-ce que ton objectif, c'est... Voilà, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Quels sont vos objectifs? Quel est votre objectif de vie? Mm-hmm. Quel est votre objectif même au mois, à l'année? Pas obligé de voir aussi loin. Et une fois que cet objectif, on l'a, qu'on a identifié sa peur, on peut mettre en place des actions pour atteindre cet objectif et des actions qui vont venir contrer nos peurs. L'action permet en fait de faire taire un peu les ruminations mentales qu'on a. On se dit non mais tu vas pas y arriver, non mais bon ok c'est chaud mais c'est pas grave, reste un peu, de façon tu vas pas pouvoir le faire. Qu'est-ce qui vous dit que vous pouvez pas le faire? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous le dit? Est-ce que c'est vous qui vous le dites? Qu'est-ce qui vous dit que vous n'allez pas y arriver? Pourquoi vous ne changez pas si vous avez besoin de changer?
Justement, je me posais la question, ça touche à une des choses dont tu as parlé. Si on n'est pas aligné, on sait pourquoi on n'est pas aligné, en fait. Et on sait ce qu'il devrait faire pour que ça aille mieux. Mais on a... déjà, il faut prendre soin de nous-mêmes. Mmh. Et on a une famille... Qui a besoin de nous.
Ouais.
Comment, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent aussi dans ce dilemme-là. Comment concilier les deux, en fait? Comment faire que ça fonctionne?
C'est un projet familial. Dans ces cas-là, c'est un projet familial. Quand j'ai décidé de démissionner de mon dernier job, j'ai pas pris la décision toute seule, dans mon coin. Parce que ça se fait pas. Parce que ce serait complètement irrespectueux pour mon mari et pour mes enfants. Et c'est une décision à prendre en famille. Alors, quand j'ai en famille, tout dépend de l'âge des enfants, bien entendu, mais c'est une décision parentale, en tout cas au moins. Et il faut s'asseoir, il faut tout mettre à plat. Il faut tout mettre à plat, c'est ok, quelles sont les dépenses, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, quel est le risque qu'on peut prendre ou qu'on ne peut pas prendre. Si le risque, on peut le prendre, on le prend, mais on essaye de prendre des risques mesurés, bien sûr. Et si c'est un risque qu'on ne peut pas prendre, de tout arrêter comme ça, c'est comment on fait pour préparer les choses. Est-ce que je prépare tout et une fois que j'ai trouvé, que j'ai postulé, alors je démissionne? Est-ce que la situation est tellement compliquée et tellement douloureuse qu'on n'en dort plus, qu'on ne mange plus, qu'on est complètement malade et que notre médecin nous taraude pour nous mettre en arrêt maladie? Et là, il y a peut-être une urgence en termes de santé. Et là, il faut se poser d'autres questions. Mais c'est pas une décision à prendre dans son coin parce que ça va impacter tout le monde. Un, on se sentira coupable de le faire. Et deux, notre conjoint, notre conjointe pourrait nous le reprocher. Mm-hmm. Et on serait pas confortable. Mm-hmm. Et ce qui risque d'arriver, c'est de reprendre le premier job qui va arriver parce que on a besoin financièrement de cet argent. Mm-hmm. Donc tout ça, c'est à mettre à plat. Après, il faut juste se demander si, dans les cas en tout cas où la santé est en jeu, il faut se demander si notre santé vaut le coup de tout ça. Mmh.
Complètement. Ouais. En parlant de bien-être, santé, aliments, travail, toutes ces thématiques que tu abordes, qu'est-ce qui préoccupe le plus les gens ou qu'est-ce qui revient le plus? Quelles sont les principales raisons pour lesquelles on vient te voir?
En ce moment, c'est... Je fais mon job, mais je sais plus pourquoi je le fais. Il y a le « je sais plus pourquoi je le fais », il n'y a pas de sens. Je crois que j'aime plus mon travail, je crois que j'aime plus ce que je fais, je vibre plus pour ce que je fais, je trouve plus de sens, je sais pas trop pourquoi. En fait. Je le fais, mais voilà. Il n'y a plus les papillons dans le ventre, il n'y a plus... Ça ne veut pas dire qu'il y a toujours les papillons dans le ventre, hein. Attention. Je parle pas de bonheur ni de joie au travail, puisqu'on parle quand même de travail, mm-hmm. on est en train de parler de loisirs. Mm-hmm. Mais on est quand même censé aimer ce qu'on fait. Dans chaque travail, il y a des périodes compliquées. Dans chaque travail, il y a des choses qu'on n'aime pas faire, des choses qui vont nous énerver, des choses qui vont nous agacer. Ça fait partie du travail. Enfin, y a aucun travail n'est parfait. Après, il y a l'imperfection avec laquelle et la difficulté avec laquelle on peut s'accommoder. Et il y a celle avec laquelle on ne peut pas du tout s'accommoder. Mm-hmm. Donc, mais là, en ce moment, ce pourquoi on me contacte, c'est ça, sur le versant carrière. C'est, mm-hmm. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Mm-hmm. Et puis, quand je creuse, il y a je gère plus mes émotions au travail. Mm-hmm. Et ça, j'ai 3 personnes en ce moment qui sont dans ce cas-là, c'est je gère plus mes émotions. Donc, je sais pas, je m'emporte rapidement, je suis à fleur de peau, je suis hypersensible, je sais pas trop ce qui se passe, etc. Mm-hmm. Il y a quelque chose que les gens n'arrivent pas à supporter en mm-hmm. termes d'émotion. Et les gens se posent beaucoup de questions sur le sens de ce qu'ils font. Mm-hmm. Est-ce que ce que je fais a un sens finalement? Mm-hmm. Pourquoi je fais ce truc? Est-ce que c'est vraiment utile? Manque de reconnaissance aussi. Certains ont le sentiment de donner beaucoup. Vraiment beaucoup, mm-hmm. et certainement beaucoup trop, plus que ce qu'ils pourraient donner en fait, et de pas forcément avoir un retour qu'ils estimeraient juste, mm-hmm. et là-dessus le juste retour, on en a tous une vision très différente, donc c'est très aléatoire, mm-hmm. mais c'est essentiellement ces problématiques-là qu'on m'adresse aujourd'hui.
D'accord, oui. Et c'est assez intéressant parce que avant tu avais parlé du fait que parfois c'est l'environnement qui nous convient pas, mm-hmm. qui viennent te voir parce que bah, ils pensent qu'il y a plus de, il y a plus trop de sens. On parle très rapidement de reconversion professionnelle. Mm. Donc dès qu'il y a un malheur, bah faut changer, bah change. Mm. Est-ce qu'il y aura pas d'autres choses à considérer avant de complètement changer en fait?
Si, et on en parlait pendant la formation que j'ai faite sur le burn-out. Mm-hmm. Beaucoup pensent qu'ils font un burn-out parce que le métier ne convient pas ou l'environnement ne convient pas, etc. Pas toujours. Des fois c'est le cas, oui, mais pas toujours. Et le changement de métier, la reconversion, n'est pas la réponse à tout. Parce que si on investit de toute façon beaucoup trop dans le travail, quel que soit le métier qu'on fera, on investira toujours trop et on retombera inlassablement dans des situations de burn-out. Si on change d'environnement tous les 4 matins, c'est pareil. Si on ne se questionne pas sur le pourquoi ça n'a pas fonctionné, mm-hmm. on risque de se retrouver à nouveau dans la même situation. Donc changer n'est pas forcément la solution. Il faut déjà identifier pourquoi ça ne va pas concrètement. Et il faut prendre le temps de se poser. Et c'est vrai qu'on désigne hein, à le faire, parce que ben, ce n'est pas toujours agréable déjà mm-hmm. de se dire pourquoi ça ne va pas, se poser des questions, introspection, blablabla. Voilà. Mais pour moi, c'est le départ de tout. Mm-hmm. Pour aller mieux, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient, il faut savoir comment on fonctionne, il faut savoir ce qui fonctionne pas avec nous. Mm-hmm. Et ça, on le sait quand on se connaît. Donc il faut prendre le temps de se connaître avant de se dire « je veux changer ». Il faut déjà savoir pourquoi ça va pas concrètement. Et vraiment pourquoi ça va pas. Et l'environnement est vraiment important. Il faut identifier, je pense, avant de se dire que ça va plus, ou de partir, ou je ne sais quoi, ou en tout cas d'envisager de changer de métier. Mm-hmm. Il faut prendre les choses du point de vue de l'environnement. Et moi, c'est ce que je fais dans mes bilans de compétences. Je pars de l'environnement dans lequel les gens aimeraient travailler, et non mm-hmm. pas du métier qu'ils aimeraient faire. Mm-hmm. Et là, mes bilans ne sont pas terminés encore. Mais... les environnements ont un gros impact sur la manière dont on fait son métier.
Ouais, complètement. Et parfois, j'ai l'impression qu'il y a aussi la spécialisation. Mm. Par exemple, je sais pas, on peut être infirmier aux urgences, oui. Et détester ça, oui. Vraiment. Et choisir une autre spécialité, je sais pas, infirmière.
En pédiatrie.
C'est ça. Et en fait, ça change complètement.
Ouais.
Je pense que c'est,
ouais, c'est ça.
Aussi peut-être davantage de formation, changer de spécialité, ouais, qui peut
exactement
faire que les choses s'améliorent.
Et là, sur les spécialités, on peut partir de vraiment ce qui nous fait vibrer. Mm. Quelqu'un qui adore les enfants, mm. peut tout à fait peut-être garder son métier. Alors, tout dépend du métier, bien sûr, mais dans un environnement où ça peut bénéficier aux enfants. Et on trouvera du sens à ce moment-là, parce qu'on sait pourquoi on le fait. Mmh. Et du coup, je pense que prendre les choses sous cet angle-là, ça permet de réconcilier peut-être des passions, des envies. On se dit « Non, mais je vais pas pouvoir faire ça, c'est pas réaliste, etc. » avec une réalité, des fois, qui est ben, « Je peux pas me former pour faire autre chose parce qu'il faudrait peut-être faire 10 ans d'études que j'ai 50 ans. Mmh. » Oui, on peut le faire, mais en attendant, pendant des années, il va quand même falloir continuer à vivre, à travailler. Etc. Donc, des fois, on ne peut pas changer de métier. On ne change pas forcément de métier à la fin d'un bilan de compétences. Ça, faut être très clair là-dessus. Et c'est pas forcément l'objectif d'un bilan de compétences. Mais par contre, on peut continuer à exercer le même métier, mais dans un environnement qui va peut-être plus nous correspondre, correspondre à une passion, correspondre à quelque chose qui nous fait vraiment vibrer. Mmh. Et au final, on fera son métier d'une manière totalement différente.
Mmh. Complètement.
Ouais. On le fera de manière totalement différente.
Mmh. Ça me parle beaucoup. On a parlé de burn-out, de santé, de bien-être au travail. Justement, comment on fait pour se préserver au travail de manière très générale, parce qu'on parle du détail. Comment on fait pour éviter ces périodes de burn-out? Parce qu'en fait, là, c'est très... Quand on sort de périodes compliquées, c'est assez facile de se dire « Ah, mais oui, j'ai faire attention à ceci, à cela. Mm. » Mais lorsqu'on est dans le feu de l'action, en fait, on continue. Ouais. On se rend même pas compte que ça ne va pas, en fait. Donc ça, je trouve que c'est un enjeu qui est quand même assez important.
Faut se fixer des limites et des priorités. On ne peut pas tout faire. Mm-hmm. Tout ne peut pas être parfait. La perfection n'existe pas. Et à un moment donné, il faut définir ce dans quoi on veut mettre de l'énergie. Mmh. Énergie étant ce à quoi on pense, pas forcément ce qu'on fait. Un exercice que l'on donne et que j'ai donné récemment sur Instagram et sur LinkedIn, c'est dans quoi est-ce que vous souhaitez investir de l'énergie. Mmh. Okay, donc il y a différentes sphères dans notre vie. Tu as la famille, les enfants, les loisirs, toi, ton travail, les amis, etc. Et c'est de se dire, ok, moi, dans l'idéal, alors déjà faire un état des lieux, qui est, bah, aujourd'hui, je sais pas, j'investis vraiment le temps que je passe à penser au travail, en vrai, c'est 70%. Les enfants, globalement, bon, c'est 10. Mon couple, c'est tant, etc. Donc, lister un peu, regarder les chiffres et se dire, ok, est-ce que je suis ok avec ça? Mais par contre, il faut être hyper honnête, sinon ça ne fonctionne pas. Et de se dire, ok, l'idéal, ce serait quoi? L'idéal, c'est qu'en fait, le travail, ce soit 50% et qu'après, je répartisse ces 50% dans le reste. 20% pour les enfants, etc. etc. Mmh. Et de là, déjà, on peut se dire, ok, comment je fais maintenant pour dédier 20% de mon temps à mes enfants? Est-ce que c'est... le moment où je suis avec eux, je suis uniquement avec eux et je ne fais rien d'autre. Je n'ai pas mon téléphone qui est allumé ou il y a les mails qui arrivent et je réponds à des WhatsApp, etc. Comment je fais pour être 100% dans ce moment avec moi, que moi, pour recharger ma batterie? Et lister peut-être ces petites choses-là, mais qu'on pourrait faire au quotidien. Et ces petites choses qui, en dehors du travail, vont venir nous donner de l'énergie. Mmh. Il y a cette balance énergétique à préserver. Il y a ce qui va nous coûter de l'énergie au travail et ce qui va venir nous donner de l'énergie. Et chacun sa manière de recharger ses batteries. Dormir, se faire un bon restaurant, aller au cinéma, appeler une copine pendant 10 minutes ou sa maman, sa tata, son oncle, je ne sais qui. Aller courir, aller marcher, etc. Donc il y a vraiment différentes choses. Chacun ses ressources, en fait, pour recharger ses batteries. Donc, il faut identifier ses ressources. C'est ce qui va permettre de ne pas basculer. Mmh. Parce qu'on peut mettre en place des actions, concrètement, pour gagner de l'énergie avec ça. Et il ne faut pas que ce soit trop compliqué à mettre en œuvre, sinon on ne le fera pas. Mmh. Que ce soit des petites choses qui, sur le quotidien, ne vont pas venir nous coûter de l'énergie, justement, à les déployer. Donc, il y a ces ressources-là à identifier. Et puis en face, il faut identifier ce qu'on appelle des facteurs d'usure ou des facteurs de risque. Et là, il y en a vraiment plusieurs. Est-ce que l'environnement de travail est compliqué? Est-ce que ce sont plutôt les horaires? Est-ce que c'est la relation avec le chef? Est-ce que c'est le métier, le travail en lui-même? Est-ce que c'est, le rythme de travail qu'on nous impose, etc. Identifier en fait ce qui vient nous coûter de l'énergie et essayer de faire baisser ça et d'augmenter la balance des ressources, en fait. Ensuite, il faut poser des limites. Très clairement, nul n'est indispensable, on est tous remplaçables, même le président de la République est remplaçable, on est tous remplaçables. Je module toujours avec les métiers de la santé, surtout en ce moment, mais quand on finit par craquer, l'entreprise finit et arrive à trouver une solution. Donc ça veut dire que la solution est trouvable avant, en fait. Donc il y a vraiment tout un tas de choses qu'on peut mettre en place. Pour les personnes qui pensent beaucoup trop au travail et qui ont du mal à arrêter d'y penser, ce qu'on conseille, c'est de prendre quelque chose pour écrire. On prend 10 minutes par jour, on met son réveil, un minuteur, on s'assoit et on écrit pendant 10 minutes tout ce qui nous passe par la tête et qui est lié au travail. Une fois que le réveil sonne, on ferme le carnet, on arrête d'y penser, on a fini. Et on fait ça tous les jours, à un moment qu'on définit, et il faut être hyper rigoureux, hyper précis, hyper strict avec soi. Pour avoir fait l'exercice, c'est dur, mais ça fonctionne. Parce qu'on va se rendre compte soit que c'est toujours les mêmes idées qui reviennent, toujours les mêmes pensées, et puis on va peut-être réussir à trouver des solutions finalement pour ces pensées, ces idées-là. Soit on se rend compte que en fait en mettant par écrit, on va forcément prendre de la distance avec ce qui nous arrive, on va se dire mais en fait, bah, c'est grave. À côté de ça, j'ai telle chose qui me donne du bonheur. Tiens, j'ai tel event, tiens, j'ai un mariage, tiens, j'ai machin. C'est pas très grave en fait que mon chef me dit ça. Donc ça permet de mettre un peu les choses en perspective et de voir un peu les choses autrement. Donc il y a tout un tas de choses. On identifie ce qui nous fait du bien, ce qui nous donne de l'énergie, ce qui nous procure de l'énergie. Et on identifie ce qui nous coûte de l'énergie pour essayer de minimiser ce qui nous coûte et de faire augmenter ce qui nous donne de l'énergie et garder finalement cet équilibre et cette balance. Et puis on s'appuie sur ces ressources externes, quand on en a bien sûr.
Pour revenir au cabinet Bliss, tu proposes, c'est super intéressant, des appels découverts de 15-20 minutes.
C'est ça.
C'est quoi un peu l'objectif? C'est si on a des questions sur notre rapport au travail, quoi que ce soit, on peut prendre rendez-vous avec toi et voir si on veut aller plus loin.
L'appel découverte, alors j'ai augmenté la durée parce que je suis trop bavarde et trop curieuse et ça ne suffit pas. Là, c'est plutôt entre 20 et 30 minutes.
D'accord.
Et l'objectif, en fait, c'est de savoir... Alors, faire un petit point, déjà des fois par téléphone, ça fait du bien.
Oui.
Savoir si c'est normal, entre guillemets, ce qu'on vit ou pas. Et le simple fait, des fois, d'en parler avec quelqu'un d'externe, on va se rendre compte que, bah, en fait, oui, c'est dur, mais ça va le faire. Ou alors, le problème est peut-être ailleurs, il n'est pas forcément lié au travail. En tout cas, quand le problème est lié au travail, c'est... identifier ce qui fait que ça ne va pas, quelle est la situation qui pose un problème pour la personne. Moi, je peux estimer qu'une situation est problématique pour moi, ça ne le sera pas forcément pour toi. Et du coup, là, c'est totalement individuel, donc identifier ce que la personne estime être une problématique, un problème, quelle est la situation dans laquelle elle souhaiterait être, idéalement, et quel est son objectif, en fait, ce qu'elle attendrait d'un accompagnement, ce qu'elle estimerait... intéressant pour un accompagnement. Et après, de là, moi, je vois si je peux l'aider ou pas. Et soit c'est dans mes corps, dans mes compétences, et je le dis, et je dis comment, et je présente mes offres. Soit c'est pas le cas, et je redirige. Donc, ça n'engage en rien, du coup. Et ça permet de savoir si, effectivement, je peux être utile d'une quelconque façon, ou s'il faut plutôt s'orienter vers un autre professionnel, ou vers autre chose, très clairement.
D'ailleurs, on peut retrouver le cabinet Bliss en tant que cabinet Bliss sur Instagram, Facebook et LinkedIn.
C'est ça.
Exactement.
C'est ça.
Donc, si vous voulez contacter Sierra, elle est disponible, elle est là sur les réseaux sociaux.
Tout à fait.
On arrive gentiment à la fin. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter, Sierra, pour la suite?
Que la mayonnaise prenne, comme on dit. Les débuts sont speed, sont compliqués et... Je crois que le plus difficile pour les indépendants, comme moi ou comme d'autres thérapeutes, et eux, c'est de se faire connaître. Mm-hmm. Et de prouver qu'on a une utilité, mm-hmm, pour les gens. Donc, ouais, c'est ça. Que ça prenne et que le nom de Bliss, le cabinet du renouveau, se diffuse petit à petit pour que je puisse vraiment aider les gens finalement et que ça puisse perdurer dans le temps. Parce qu'au bout d'un moment, faudra retourner au travail autrement si c'est pas via le cabinet. Donc, voilà, c'est tout ce qu'on peut souhaiter pour le moment.
Yes.
C'est déjà beaucoup, mais...
Oui, mais c'est tout ce qu'on souhaite. En tout cas, on y croit à 100%. Ouais. Merci beaucoup pour ton partage.
Merci à toi.
Tout ce que tu m'as apporté, tu nous as apporté aujourd'hui.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Un grand merci à Steph pour la production. Un grand merci également à Beth et Patricia pour la musique. Vous pouvez retrouver toutes leurs informations et références en barre de description du podcast. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, ou moins, vous pouvez laisser vos notes sur Apple Podcasts ainsi que vos impressions. Je vous invite également à laisser vos remarques, questions sur les réseaux sociaux. Nous avons Instagram et Facebook. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter pour ne rater aucun épisode de podcast ou article de blog.